Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous.
Le ministre de l'Intérieur en visite à la synagogue de Boulogne-Billancourt, Gérald Darmanin, qui a confirmé le renforcement de la sécurisation de plusieurs lieux sensibles comme les anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux jours après l'attaque terroriste, 8 personnes sont toujours en garde à vue. Tous les Français pourront bénéficier des aides à la rénovation énergétique, annonce ce matin sur Europe 1 de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. Aide modulée en fonction des revenus alors que 5 millions de logements sont mal isolés en France. Toujours dans le journal de la mi-journée, le président de l'Ordre des médecins qui redoute une deuxième vague plus vite que prévu. Donald Trump qui officialise sa candidate Amy Coney Barrett pour la Cour suprême. Nous verrons avec la spécialiste des États-Unis Nicolas Bacharan ce que cela veut dire alors qu'on est en pleine campagne présidentielle. Et puis grande page consacrée au coup d'envoi de l'édition 2020 de Roland Garros, Europe 1 radio officielle pour cette édition totalement inédite avec un public réduit à 1000 personnes. La pluie qui risque bien de perturber le déroulé des matchs. Nous serons en direct de Roland-Garros avec le directeur du tournoi Guy Forget. Et puis nous verrons avec Valérie Darmon que côté météo, effectivement c'est froid et gris pour la plupart des régions.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous sommes dans une situation extrêmement critique et nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique. Déclaration ce matin de Gérald Darmanin, deux jours après l'attaque devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Preuve pour le ministre de l'Intérieur que la menace terroriste est toujours là et que nous l'avons peut-être collectivement mis derrière nous. Ce qu'il a voulu rappeler lors d'un déplacement, Diane Berger, à la synagogue de Boulogne-Billancourt.
Effectivement, Gérald Darmanin l'a réaffirmé ce matin lors d'une visite symbolique. Une synagogue le jour de Yom Kippour, la principale fête religieuse juive.
Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous. Malheureusement, nos compatriotes juifs sont particulièrement visés et je suis venu dire à la communauté juive que nous la protégeons. Et il y a plus de 7000 policiers et militaires qui protègent en ce week-end les offices, notamment les offices du Kippour.
Dans l'entrée de la synagogue, Robert Régenès se réjouit des annonces du ministre de l'Intérieur. Il est le président de la communauté juive de Boulogne et pour lui, c'est un geste rassurant.
Il a eu un discours très fort de prise de conscience du risque que vivaient les Français juifs puisqu'ils sont au premier rang du risque terroriste. Dans ces fêtes religieuses de Yom Kippour, les Français juifs seront protégés autant que faire se peut pour pouvoir vivre leur culte de manière sereine.
Les lieux de culte juifs font donc justement partie de ceux où la sécurité est renforcée depuis hier. Et le ministère de l'Intérieur explique avoir déjoué 32 attentats depuis 3 ans, soit quasiment un par mois.
Diane Berger, puis à propos de l'enquête concernant l'attaque de vendredi, 8 personnes toujours en garde à vue ce matin. Le journal du dimanche dit que les policiers étudient actuellement une vidéo dans laquelle l'assaillant aurait enregistré un manifeste dans sa langue d'origine, le ourdou. Il y expliquerait son acte, qu'il a pleinement assumé, on le sait, en garde à vue, mais sans revendiquer une affiliation à l'État islamique ou à Al-Qaïda.
Fabienne Lemoyle vous informe sur Europe 1.
Des aides pour mieux isoler son logement, c'était sûrement l'un des aspects les plus concrets du plan de relance avec 7 milliards consacrés à la rénovation énergétique, d'autant qu'on compte près de 5 millions de logements mal isolés en France. Et bonne nouvelle annoncée ce matin sur Europe 1, Aurélien Fleureau par la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, eh bien tous les Français vont pouvoir bénéficier de ces aides.
Oui, alors que pour l'instant, l'aide qui s'appelle MaPrimeRénov n'est accessible qu'à la moitié des ménages les moins aisés, elle sera désormais modulée en fonction de vos revenus, mais aussi de votre lieu de résidence et du type de travaux. Un simulateur mis en place le 5 octobre va vous permettre de savoir de quelle somme vous pourrez bénéficier, sachant qu'il s'agit principalement de réductions directement sur la facture. Et puis, pas besoin d'attendre le 1er janvier 2021, a précisé ce matin sur Europe 1 la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon.
Les aides qu'on met en place, qu'on pourra obtenir dès les devis signés à compter du 1er octobre, elles vont concerner tous les Français. Pour des travaux de rénovation énergétique, isolation, changement de chaudière, comble, ventilation, les plus aisés pourront être aidés à hauteur de 40% de leurs travaux maximum. Et puis la deuxième catégorie, 60%, les revenus intermédiaires 75% et les personnes les plus modestes 90%.
Le dispositif de prime énergie sera également renforcé. Et puis pour lutter plus largement contre les passoires thermiques, près de 15% des logements en France, un bonus de 1500 euros supplémentaires sera créé pour les particuliers concernés. Et le dispositif MaPrimeRénov sera désormais ouvert aux bailleurs privés.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. 14 400 nouveaux cas de Covid répertoriés en France ces dernières 24 heures. Et les médecins médecins qui s'inquiètent d'une possible deuxième vague. Le président du Conseil national de l'Ordre des médecins pense même qu'elle va arriver plus vite que prévu. Patrick Bouet qui en appelle à la responsabilisation des Français.
Le sentiment que nous avons aujourd'hui, c'est que finalement, nous n'avons pas sorti la tête de la période estivale et que nous ne nous rendons pas compte que la situation est en train d'évoluer très rapidement. Donc oui, il faut absolument que nous ayons conscience que nous allons affronter une situation difficile. Je suis inquiet parce que je sais ce qui se passe dans le monde de la santé, je sais quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les établissements et je vois malheureusement, non pas que l'acteur politique, mais la structure qui l'entoure n'a pas tiré les enseignements de ce qui s'est passé dans la première phase, reproduit le même système, et tout ceci sans que nous ne nous soyons réunis pour débriefer ce qui s'était passé, voir où il y avait eu des difficultés, et ne pas reproduire ce qui s'est passé.
Patrick Bouet qui lance l'alerte, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, qui répondait à Victor Dolande.
Europe Midi. Fabienne Lemoyle.
12h38 sur Europe 1 et c'est donc depuis la roseraie de la Maison-Blanche que Donald Trump a officialisé son choix pour la Cour suprême. Et sans surprise, Sonia Dridi, ce sera bien Amy Coney Barrett, un nom qui circulait depuis plusieurs jours.
Oui, Amy Coney Barrett, 48 ans, élégante, est une juge ultra-conservatrice et une fervente catholique. Elle est arrivée hier dans les jardins de la Maison-Blanche aux côtés de son mari et de leurs 7 enfants, dont 2 originaires d'Haïti ont été adoptés. Elle est personnellement opposée à l'avortement est favorable au port d'armes, mais si elle est confirmée par le Sénat, elle assure qu'elle aura l'intérêt de tous les Américains en tête.
Si je suis confirmée, je n'assumerai pas seulement ce rôle pour la cause des miens et encore moins dans mon propre intérêt. J'endosserai ce rôle pour vous servir tous.
Sa confirmation fait peu de doutes puisque le Sénat est dominé par les Républicains. Le vote des sénateurs devrait avoir lieu une semaine avant l'élection présidentielle. Donald Trump veut aller vite. Il espère galvaniser sa base électorale avec cette nomination. Mais les démocrates sont furieux. Ils demandaient au président de ne pas nommer de juge avant l'élection. Trump a ironisé sur le sujet.
Ça devrait être très facile. Bon courage, ça va aller vite. Je suis sûr que ce ne sera pas controversé du tout.
Hier soir, le candidat démocrate Joe Biden a de nouveau appelé le Sénat à ne pas confirmer de nomination tant que les Américains n'auront pas choisi leur prochain président et leur prochain congrès.
Bonjour Nicole Bacharan.
Bonjour Fabienne.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1, historienne spécialiste des États-Unis. Ce choix de Amy Coney Barrett, on dit, c'est pas une surprise, le nom circulait depuis plusieurs jours, mais ça témoigne de quoi alors qu'on est en pleine campagne présidentielle? Ça va galvaniser les troupes de Donald Trump, comme vient de le dire Sonia Dridi?
En tout cas, c'est exactement son intention. Quand il l'a présenté hier, le président a directement fait appel à ses électeurs en disant que la juge Coney Barrett aurait à cœur de protéger le droit à porter des armes, la loi et l'ordre, la liberté religieuse, sachant que la liberté religieuse, c'est le nom de code pour dire anti-avortement, anti-mariage gay. Donc il envoie le message pour dire à ses électeurs, venez voter la possible interdiction de l'avortement ou sa très grande restriction est à portée de main. Mais ça peut aussi galvaniser les autres électeurs. Et on voit que les fonds de campagne affluent chez les démocrates parce que beaucoup de femmes, notamment qui ne sont pas forcément des démocrates passionnés, ont très peur de voir une juge comme Coney Barrett décider de leur santé et de leurs décisions les plus intimes.
Et c'est vrai qu'on a vu devant la Cour suprême, lors de l'hommage à la doyenne décédée, des démocrates dire « venez voter, c'est le meilleur hommage que vous pouvez rendre à Ruth Bader Ginsburg ». Alors Joe Biden, le candidat démocrate, a immédiatement appelé le Sénat à ne pas confirmer cette nomination avant la présidentielle. Mais finalement, Nicole Bacharan, il n'y a rien d'illégal à ce que cette nomination intervienne avant le 3 novembre?
J'ai envie de dire, on est à la limite de l'illégal. Parce que certes, la procédure va être suivie, mais avec un tel forcing dans le temps que ça en devient franchement malhonnête. Normalement, c'est long une procédure de confirmation. On laisse le temps aux sénateurs d'étudier toutes les décisions, tous les écrits de la candidate juge. Du temps pour l'interroger en commission, du temps pour faire venir des témoins. Ensuite, il y a le vote en commission, il y a le vote ensuite du Sénat tout entier. Ça prend environ 2 à 3 mois. Là, ça va être bouclé en moins de 3 semaines, juste avant l'élection, quelques jours avant, et Donald Trump l'a dit clairement, pour qu'il y ait à la Cour suprême une majorité en sa faveur pour lui donner l'élection si le résultat était défavorable et que des recours judiciaires arrivent devant la Cour suprême, puisqu'il a dit tout le temps qu'il n'accepterait pas une défaite électorale.
Merci beaucoup Nicole Bacharan. Et rappelle qu'effectivement la Cour suprême, c'est aussi le juge ultime pour valider cette élection présidentielle de novembre. Et je rappelle que vous avez publié une tribune dans Le Monde cette semaine. Le remplacement de Ruth Bader Ginsburg fait entrer les États-Unis dans une zone de turbulence.
Europe 1. Radio officielle de Roland-Garros.
Et oui, c'est le jour J pour le coup d'envoi du tournoi de Roland-Garros. Dans quelques minutes, nous serons avec le directeur du tournoi, Guy Forget, pour parler de cette édition si singulière. La pluie qui perturbe déjà les matchs, un protocole sanitaire très strict avec des joueurs coupés du monde et puis un public réduit à 1000 personnes. Un public qui est arrivé ce matin et qui est ravi d'être là malgré les conditions exceptionnelles de cette année.
1000 personnes sur Roland-Garros, ça fait pas beaucoup. Bon, l'ambiance sera certainement pas les ambiances des autres années. Hein. Après, ça dépend de pourquoi on vient. Si on vient pour voir du tennis ou si on vient juste pour l'ambiance.
Quoi. Moi, j'en ai plein les yeux. Quoi. Moi, je suis franchement à 1000, à 11 000, à 12 000, à 20 000. Voilà. Je suis vraiment contente d'être là.
L'avantage, c'est qu'avec un temps comme ça, le court couvert, il va servir.
Exactement. C'est pour ça que j'avais pris des places sur le court central. C'est parce que je m'étais dit à l'automne. Il y a des forts risques de pluie, d'intempéries, et puis la chance a souri.
On avait pris 8 billets, on n'a pas été pris sur les 4 premiers, puis après, à 11h tardivement, on a eu une réponse positive. On a pris le terrain couvert qu'on avait pris depuis le départ. C'est comme on vient de loin, on ne va pas avoir de surprise, donc on est content.
Entre la météo, les infrastructures et le monde, c'est vrai que ce n'est pas un Roland-Garros habituel, effectivement. Ouais. Mais c'est vraiment agréable. C'est vrai que jusqu'au dernier moment, on s'est dit que ce n'est pas la peine d'aller à Paris. Et la veille au soir, on a réussi à avoir le sésame, donc on est là, on est super contents. Quoi.
Voilà, des spectateurs heureux malgré ces conditions très particulières qu'a rencontré Simon Rubin. Vous le savez, Europe 1, radio officielle donc, de ce tournoi. Pendant toute la quinzaine, nous aurons le plaisir d'accueillir chaque week-end dans le journal de la mi-journée, notre consultant Cédric Pioline. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je le disais, on va assister à un tournoi totalement inédit. Déjà, la pluie qui tombe depuis ce matin, j'imagine que ça va forcément changer les conditions de jeu sur terre battue toute la semaine.
Oui, vous avez raison. Les conditions météo ont complètement tourné là en 8 jours. On a perdu 15 degrés. Et notamment, il va y avoir beaucoup d'humidité, comme vous l'avez dit, avec la pluie, qui va avoir une incidence sur le comportement des balles et le comportement de la surface, de la terre battue. Donc il y aura des joueurs qui seront plus ou moins impactés, mais on pense tout de suite au tenant du titre, à Rafael Nadal, qui, à mon avis, n'aime pas trop ces conditions.
Alors, dès aujourd'hui, en tout cas, il y aura une affiche choc. Wawrinka Murray, c'était quand même une demi-finale en 2017.
Ah oui, c'est fou comme le monde peut tourner vite. Demi-finale en 2017, et puis là, c'est un premier tour. Alors, il y a quand même Wawrinka qui est toujours tête de série. Mais on connaît les déboires qu'a subi le Britannique avec deux opérations à la hanche. Il se bat pour essayer de revenir. Alors je ne pense pas qu'on le reverra un jour au niveau qui a été le sien, c'est-à-dire numéro un mondial. Mais en tout cas, c'est une affiche alléchante, hein, je dirais, pour un premier tour, même si probablement le Suisse est légèrement favori dans cette rencontre.
Alors, on va parler un peu des Français, Cédric Pioline. 7 Français sont programmés aujourd'hui. Est-ce qu'on a une chance d'en voir un en deuxième semaine ?
J'ai envie de vous dire que du côté des Français, c'est un petit peu le grand flou. Aucune base de repères par rapport à des résultats. Le meilleur Français, Gaël Monfils, a fait une sortie rapide à Rome. Maintenant, le format 5-7, j'espère que ça donnera la possibilité à certains joueurs français de se régler. Et puis qu'il y aura une belle surprise, parce que sinon, le nombre ne garantit absolument pas la présence d'un Français ou plusieurs en deuxième semaine.
Eh bien, à suivre. Merci beaucoup, Cédric Pioline.
Merci à vous.
Et dans quelques minutes, je vous le rappelle, nous serons avec le directeur du tournoi en direct de Roland-Garros, Guy Forget. Un mot de football avec Reims-PSG à 21h ce soir, 5e journée de Ligue 1 et surtout le retour sur le terrain de Neymar et de Mbappé. Et hier soir, Marseille a arraché le match nul 1-1 face à Metz. La météo avec un temps, eh bien oui, ça se confirme, Valérie Darmon, froid et gris.
Absolument, Fabienne, ce dimanche est la journée la plus froide depuis le début du mois avec des températures cet après-midi jusqu'à 10 degrés en dessous des normales et le ressenti est très froid en plus comparable à une fin novembre sous la pluie et le vent fort du nord-est au massif central et ce soir jusqu'en Nouvelle-Aquitaine avec des maximales entre 9 à Rodez et 20 à Toulon, 12 annoncés à Bourges, 14 à Chartres, 15 degrés à Agen, à Paris, 17 à Dunkerque et à Biarritz et 19 degrés à Lille. Sur les façades ouest et sud de la France, surtout les littoraux, le temps est plus sec, le ciel variable avec même de très belles éclaircies en Bretagne et près du golfe du Lion et sur l'extrême est de la France dans les Alpes-Maritimes. La tramontane souffle jusqu'à 110 km/h et sur la Normandie, c'est le vent du nord qui souffle à 90 près de la Manche, 60 à 70 dans les terres, jusque sur la région parisienne. Et il ne suffit pas à chasser les nuages qui seront présents sur les trois quarts de la France toute la journée.
Europe Midi. Fabienne Lemoelle.
12h51 sur Europe 1 et comme prévu, on prend la direction de Roland-Garros où le coup d'envoi du tournoi a été donné à 11h. Bonjour Guy Forget.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. J'ai juste envie de vous demander si vous êtes un directeur de tournoi soulagé de voir que oui, malgré un public réduit à 1000 personnes à cause de l'épidémie, ça y est, on joue, ou inquiet parce que la pluie n'arrête pas de tomber depuis ce matin.
Ah, écoutez, vous m'avez posé la question il y a un an, je vous aurais dit que j'aurais été très inquiet à cause des conditions climatiques. Nous avons enfin ce toit sur ce court Philippe Châtrier que l'on attend depuis des années, qui nous permet aujourd'hui d'assister à un très beau spectacle entre Yannick Sinner et David Goffin, qui ont ouvert les hostilités à Roland-Garros cette année. Et on sait qu'on pourra jouer les quatre matchs phares justement sur ce court. Après, effectivement, on est heureux quand même que le tournoi débute. Vous savez, c'était tellement compliqué de mettre ce tournoi sur pied. On a eu tellement de mauvaises surprises avec les jauges notamment, que les joueurs et les joueuses sont là, que le spectacle commence.
C'était pas un risque quand même de décaler autant à l'automne le tournoi parce qu'il va falloir quand même le gérer, ce facteur météo. On annonce quand même un temps assez épouvantable toute la semaine. On peut pas jouer tous les matchs sur le central, même si vous avez ce superbe toit désormais.
Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle pour les Jeux de Paris 2024, le cours Suzanne Lenglen sera aussi couvert. Donc on le recevra probablement en 2023. Et maintenant, on est optimiste. Vous savez, même au mois de fin de septembre, début octobre, on aura quelques belles journées à Paris, même si le thermomètre est un petit peu bas en ce moment. Les cours sont bâchés. Dès que la pluie s'arrête, le jeu peut reprendre. On a bon espoir d'arriver à terme. Vous savez, je crois qu'il fallait sauver ce tournoi de Roland-Garros, quoi qu'il arrive. Il y a des tas de joueuses et des tas de joueurs qui ne peuvent pas exercer leur métier maintenant depuis de nombreux mois. Et il fallait aujourd'hui soutenir justement la planète tennis.
Bon, juste un petit mot quand même, parce qu'il y a eu une petite colère, on va dire, de la Biélorusse Victoria Razanka ce matin, qui a dit « Tout ça, c'est ridicule, on ne peut pas continuer à jouer. Il fait 11 degrés, il fait trop froid » et qui a demandé quand même à l'arbitre d'interrompre son match.
Écoutez, ça, c'est le quotidien des joueuses et des joueurs de tennis. Vous pouvez jouer des fois en Australie, il fait 40 degrés à l'ombre. Il y a des joueurs qui sont au bord de l'asphyxie. Parfois, on arrête les matchs parce qu'on considère que la santé des joueurs est en place. Ici, en ce moment, c'est la bruine qui tombe avec les rafales de vent et le froid. Maintenant, vous savez, les joueurs de football jouent le championnat de France tout au long de l'année, même au mois de janvier, au mois de février. Parfois, il fait 0 degré sous la neige, ça joue. Donc les joueurs de tennis sont capables, même si c'est désagréable parfois, de jouer quelques minutes avec des conditions délicates.
Bon, message bien passé Guy Forget. Donc le public, on l'a dit, il est réduit à 1000 personnes, mais il est là, alors que l'US Open s'était joué à huis clos. Donc finalement, c'est déjà ça, vous vous dites ?
Écoutez, c'est mieux que rien. Maintenant, quand vous voyez la superficie d'un stade comme celui de Roland-Garros qui fait 12 hectares, imaginez 1000 personnes. Elles sont d'ailleurs toutes les personnes. Je ne sais pas si vous verrez les images tout à l'heure. Toutes ces 1000 personnes sont sur le court Philippe Châtrier en ce moment, puisque au moins les personnes sont là à l'abri. C'est vraiment très, très, très clairsemé. Donc les gestes barrières sont respectés. Ils peuvent regarder ce match en toute sécurité ici à Roland-Garros.
Et vous avez d'ailleurs l'assurance, Guy Forget, que cette jauge, elle va en rester là ou ça pourrait finir à huis clos si les conditions sanitaires se dégradent. On en parlait dans le journal de cette fameuse deuxième vague qui arrive.
Écoutez, vous savez, la deuxième vague, je crois qu'on en parle depuis le mois de juin. Elle n'est pas venue en juin, elle n'est pas venue en juillet, elle n'est pas venue en août, elle n'est pas venue en septembre. On croise les doigts. Écoutez, on reste optimiste. Après, on est comme vous tous. On suit les règles qu'impose le gouvernement. Mais écoutez, je crois qu'il faut quand même être optimiste. La vie, quand même, a repris, heureusement, depuis fort longtemps. Et ce serait bien qu'on puisse tous exercer nos métiers respectifs.
Et il y a un protocole sanitaire très strict pour les joueurs. Pas question de sortir de l'hôtel, sauf pour venir à Roland-Garros.
Oui, mais ça c'est normal. C'est comme dans les championnats de football ou de rugby. Aujourd'hui, on veut s'assurer que les joueurs soient protégés, qu'ils ne puissent pas contaminer leurs proches derrière. Donc ils ont été testés dès leur arrivée à deux reprises, chaque joueuse, chaque joueur. Et puis à la suite de ça, tous les cinq jours, ils font un test PCR pour s'assurer qu'il soit négatif. Donc pour l'instant, tout se passe très bien.
Bon, alors ce que vous sentez, vous en tout cas, c'est du plaisir de ces joueurs d'en découdre, d'être là et de pouvoir jouer.
Écoutez, à la minute où je vous parle, là, je suis le match entre Yannick Sinner, le jeune prodige italien, contre David Goffin. C'est un match de très très haut niveau. Je pense que les 1000 personnes qui sont là dans le stade aujourd'hui mesurent la chance qu'ils ont d'être présents parce que ça joue très 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 bien au tennis.
Alors ça joue très très bien au tennis. On l'a dit, cette pluie, on ne va pas dire qu'elle va perturber les matchs, mais en tout cas, ça va changer la nature de la terre battue. Est-ce que ça veut dire que le roi Nadal va être détrôné cette année?
Écoutez, vous savez, ça fait 15 années que Rafael Nadal joue à Roland-Garros. On sait que c'est un anxieux de nature. Je me souviens que après ses premières victoires, certaines personnes disaient « Non, mais il est beaucoup trop physique, il ne va pas tenir, il va se blesser. » Il a gagné quand même le tournoi à 12 reprises. Donc, je pense que chez les bookmakers, il doit être encore largement favori. Et à part peut-être aujourd'hui Djokovic ou Dominic Thiem, il y a peu de joueurs capable de pouvoir prétendre détrôner Rafael Nadal.
Côté français, alors Cédric Pelline nous disait tout à l'heure dans le journal, c'est très flou.
Oui, écoutez, il y a eu beaucoup de pépins physiques. Joe Wilfried Tsonga qui a déclaré forfait, Lucas Pouille qui revient tout juste d'une opération au coude et qui n'a pas pu disputer Roland-Garros. Richard Gasquet qui a eu des problèmes avec son dos, on espère qu'il pourra participer à son premier tour. Il reste Gilles Simon, il reste Gaël Monfils qui a fait un très 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 bon début de saison. Mais bon, effectivement, Rafael Nadal a plus de repères pour l'instant en ce moment sur cette surface.
Un dernier mot avant de vous libérer. On peut vous souhaiter quoi pour cette quinzaine qui va peut-être se transformer en trois semaines, hein, suivant le temps, Guy Forget.
Non, ça jouera sur une quinzaine. Écoutez, je le souhaite. Hein, des bons résultats de nos joueuses françaises aussi, qui sont nombreuses ici au premier tour et qui peuvent, comme elles l'ont fait par le passé, peut-être pourquoi pas rentrer dans le dernier carré. Un bon parcours de nos joueurs français. J'ai parlé de Gaël Monfils et puis toujours des matchs avec beaucoup d'émotions, avec Rafael Nadal, avec Novak Djokovic, avec cette nouvelle génération, Tsitsipas, Shapovalov. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui qui vont, je pense, tirer leur épingle du jeu.
Merci beaucoup Guy Forget, on l'entend derrière vous, ça joue effectivement sur le central et on entend le public même réduit à 1000 personnes. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Europe 1. Et on le rappelle, Europe 1 radio officielle avec un point sur les rencontres. Toutes les heures, on sera avec Simon Rubin à 13h et dans un instant, ce sera Sophie Larmoyer qui va nous emmener pour les carnets du monde en Slovénie.